Bonsoir à tous, il est 20h, les jours allongent, il fait beau, le soleil est bien présent. Bonjour Fab.
Bonjour.
Bonjour Luc.
Bonjour Ludo, bonjour tout le monde.
Il n'est pas en Inde lui ?
Presque, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors Luc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Non. De qui ? De qui ? Non. C'est une excellente blague. C'est une excellente blague.
Allez, on va reprendre.
À parler du gros poit.
Alors Luc, de qui va-t-on parler aujourd'hui ? C'est bon. Alors Luc, de qui va-t-on parler aujourd'hui ?
Bah, des qui ?
De qui ?
Bah, des qui ?
There!
voilà, c'était la blague du jour.
Voilà, c'est l'intro la plus nulle de Rock'n'Roll Diaries, mais il en fallait bien une. Donc vous avez compris, on va parler du groupe The Who avec une chanson générique qu'on connaît, Fab.
Oui, tout à fait, c'est Baba O'Reilly. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Who, bah, ils l'ont moins entendu dans Les Experts.
Ouais, les experts, les vrais, hein, pas... parce que les Who, en fait, sont spécialisés dans le générique des experts.
Et oui, ben c'est bien, ça les fait connaître pour les nouvelles générations qui les connaissaient peut-être pas. Pour les autres, ben on va leur rappeler un peu toute l'histoire des Who avec peut-être qui c'est qui commence, Luc.
Ouais, on va en parler des débuts de ce groupe qui est un peu un groupe assez particulier finalement dans son existence. Puisque à la base, les deux premiers fondateurs de ce qui deviendront les Who, à savoir Pete Townshend et John Entwistle, se retrouvent pour jouer du blues. Townshend jouait d'ailleurs du banjo quand il était jeune.
Et Entwistle du corps d'harmonie.
Voilà, et Entwistle du corps d'harmonie.
Le groupe. Mm.
Voilà, et c'est comme ça qu'ils débarquent tous les deux à commencer à faire de la musique, à jouer un peu dans les clubs et principalement des clubs de jazz, des choses comme ça.
Ils viennent d'où les Who ?
Ils viennent d'Angleterre.
Oui, de Londres.
Encore un groupe,
ouais, en banlieue de Londres.
C'est la banlieue de Londres, exactement.
Quelles années ?
Le groupe se forme officiellement en 64, mais en fait ils se rencontrent au tout début des années 60.
Ouais, ils sont camarades de classe, enfin de d'école, Entwistle et Townshend.
64 et Shell Beatles.
Et Shell Beatles, on est à Beatles for Sale, donc la Beatlemania bat son plein, première tournée américaine, gros succès au Ed Sullivan Show, 73 millions de téléspectateurs.
Ok, alors je ne sais pas si les Who suivent l'exemple des Beatles, où ils étaient d'entrée plus rock'n'roll.
Pas du tout. On l'a dit, ils ont commencé par le jazz. Ils sont rejoints par un troisième larron qui s'appelle Roger Deltré, qui va devenir ensuite, par la suite, le chanteur attitré des Who, qui lui est ouvrier métallurgiste. Voilà, qu'il invite, c'est Entwistle qui le rencontre et qui lui dit « Ah viens, on a un groupe sympa avec un pote, machin, t'as qu'à venir ». Donc le groupe, qui est un petit peu la préhistoire des Who, s'appelle The Detours, avec Deltré, Entwistle et Pete Townshend. Il y a trois autres membres.
Qui sont vite virés
d'ailleurs.
Deltré, il joue de la guitare au début, en fait il se l'est fabriqué en tant qu'ouvrier métallurgiste. Et puis finalement, il abandonne au profit du chant et il en profite pour virer les autres chanteurs.
Voilà. Et Entwistle, lui, il abandonne le corps pour se consacrer à la basse. Et puis, ils ont également un batteur qui s'appelle Doug Sandom qui lui, en fait, il va se barrer parce qu'il n'est pas du tout... dans l'esprit des autres. Il a 35 ans alors que les autres en ont 20. C'est plus un batteur effectivement un peu jazz, un peu cette mouvance là, et il a du mal à supporter le fait que Pete Townshend commence un peu à partir dans certains délires musicaux, à tenter des trucs avec sa guitare, notamment des Larsen, des choses comme ça, ce qui pour un groupe de jazz est plutôt quand même un petit peu étrange.
Mais c'est problématique, ouais.
C'est un petit peu problématique.
À moins que ça soit un Larsen mélodique.
Voilà, ouais, mais ils vont trouver la solution à ça de toute façon, parce qu'il va y avoir un quatrième personnage.
Voilà,
un quatrième
larron, et non des moindres, qui s'appelle Keith Moon. Moon qui veut dire lune en anglais.
Qui n'est même pas majeur à l'époque.
Qui est même pas majeur et qui, alors, selon la légende, aurait dit, vous n'avez pas de batteur ? Bah, de toute façon, je suis meilleur que celui que vous allez trouver. Et qui était passé derrière les fûts et qui a détruit une batterie. Voilà, complètement.
En 20 secondes, c'était fait.
Ils ont dit, oh, bah, toi, t'es bien, toi. Toi, t'es nickel. Et donc, c'est comme ça que Keith Moon rejoint ce qui va devenir un quatuor qui va s'appeler non plus The Detours, mais The High Numbers. Voilà.
Alors, c'est, en fait, c'est une idée de leur... ils ont croisé entre-temps la route d'un manager qui veut absolument les faire participer au mouvement mode. Mm-hmm. On avait parlé au moment de l'émission sur les Kings, le mouvement mode. Ouais. C'est une mode vestimentaire, c'est des gens qui filent à scooter avec des sortes de costards, des chaussures italiennes pointues.
Des petites coiffures, là, bien un peu coupe au bol.
Voilà, et qui écoutent surtout du rhythm blues américain, de la musique noire. Enfin, voilà, ils sont pas très rock. C'est vraiment, ils sont opposés... mode et rocker, et il veut absolument, il se dit, on va miser là-dessus, fan des Kings, hop, et du coup, leur manager leur écrit même une chanson qui fait un flop, qui est leur
I'm
premier
the
single,
face.
Voilà,
s'appelle I'm the
et
face.
Il les appelle The High Numbers parce que c'est une expression mode qui veut dire un peu que c'est top, quoi. C'est un groupe top niveau,
voilà.
Mais bon, voilà, et juste avant, quand même, ils s'étaient appelés brièvement The Who.
C'est ça.
Ils avaient eu l'idée déjà, mais ils ont abandonné au profit de The High Numbers.
C'est-à-dire qu'ils s'étaient rappelés The Who, et puis leur manager débarque et leur dit « Oh non, The High Numbers, c'est cool, vous allez voir, vous allez péter un truc et tout. » Et c'est là où ils sortent leur premier single, donc, comme l'a dit Fab, qui s'appelle « I Am The Face », et qui est à peu près un beat de Total. Totalement un flop.
Donc rhythm and blues à ce moment-là.
Voilà. C'est pas eux qui composent à ce moment-là, justement, c'est le manager qui leur propose la chanson. Et ça pose un peu problème à Pete Townshend qui a commencé lui à composer chansons.
C'était une reprise alors.
Et c'était
à l'époque.
C'était une chanson du manager.
C'était une chanson du manager.
Pour ses poulains. Mais
qu'effectivement Townshend lui déjà de son côté il commence à faire ses propres créas, ses propres chansons. Mais pour l'instant, il reste un peu cantonné à cette étiquette mods. Ok.
Pardon.
Il reste cantonné.
Ori.
Ok.
Ori
cantonné. Voilà. À cette étiquette mods que surtout leur producteur a bien voulu leur coller parce que finalement, ils sont pas véritablement mods. Alors déjà, Roger Deltré, c'est un petit frisé, donc les coupes mods, c'est quand même des espèces de coupes au bol.
Il utilisait un fer à défriser pour...
Il flinguait, il a une collection complète de fer à défriser mort qui gît dans les...
C'est marrant qu'on connaît la suite des Who, la brutalité de leur musique, etc. Savoir qu'ils ont commencé comme ça, c'est étonnant.
Il y a plusieurs. Ça, ils ont du mal à trouver leur identité au début. Il y a vraiment ça. Ils sont alpagués donc, par ce manager qui veut en faire des mods. Après, du coup, ils tombent sur deux autres types qui viennent réaliser un documentaire et qui finalement lâchent complètement leur documentaire. Sur un groupe de rock pour les suivre eux en tant que manager. C'est Keith Lambert
et Chris Stemp.
Voilà, et Chris Stemp, le frère de Terrence Stemp, l'acteur. Et donc, eux, ils les reprennent en main, ils leur redisent, finalement, c'est The Who.
Voilà, The Who.
Ça colle bien, en fait, c'était plus l'idée graphique, quoi, The Who.
Oui, parce qu'il y a un logo qui va avec,
voilà,
ce fameux logo bleu-blanc-rouge.
L'idée d'identité
flèche,
britannique, voilà, etc. Et donc, finalement, ils vont participer à ça, et sans être totalement... Ce qui va aider, surtout, c'est les paroles de Pete Townshend, quand il se mettra vraiment à composer.
Les paroles de Pete Townshend et la légende des guitares fracassées qui commence tout connement en fait parce que ce soir-là Stamps et Lambert sont venus avec toujours un petit peu l'idée de faire leur documentaire et les Who jouent dans un club
l'hôtel Railway
l'hôtel Railway exactement Railway Hotel et le plafond est très bas et en fait Townshend en jouant pète sa guitare en fait et la légende est née qu'un guitariste fou a explosé ses guitares après ses concerts
alors que lui apparemment il était énervé parce qu'il venait de fracasser sa guitare sans faire exprès et le public réagissait à peine donc de rage il a repris sa guitare il a pété contre les amplis et là il a vu que les gens réagissaient un peu quoi.
Donc, comme quoi, ça tient
donc
à rien.
Il s'est dit je vais le... les deux managers du coup lui demanderont de le faire chaque soir et Keith Moon lui est encouragé par ça va dire je vais détruire ma batterie aussi tous les soirs
surtout que lui il avait l'habitude donc,
voilà ce qui coûte cher hein, ceci dit,
voilà finalement on verra plus tard mais les Who ont finalement un gros budget matos
ils ont même noué un contrat Pete Townshend a noué un contrat avec un fabricant de guitares aux États-Unis pour lui fournir des guitares qui cassent tous les soirs quoi. Donc,
tous les soirs
il y a le côté commercial quand même, du
quasiment par contrat il devait casser une guitare tous les soirs
ça l'énervait d'ailleurs au bout d'un moment
du coup il a cassé sa guitare
quel est ce fabricant
Je sais plus parce qu'il a, il est passé quand même de par Gibson, mais
parce
ça c'était
des,
plus tard.
Des SG, ouais.
Il a eu Epiphone à un moment. Enfin, il est passé par plusieurs marques hein, avant de trouver le. Je crois qu'il a commencé sur Epiphone, mais je suis pas sûr là. Je veux pas dire de bêtises.
Ok. Voilà. On vérifiera pendant la pause musicale.
Voilà. On va peut-être justement faire écouter un premier morceau
qui est le premier morceau qui va faire connaître les Who. Hein,
si ouais. Vous... Voilà. C'est le single qui sort avant la sortie de l'album My Generation et ça s'appelle I Can't Explain.
Je ne peux pas expliquer.
Et à l'époque, c'est violent.
Voilà donc pour ce morceau. Alors, il faut expliquer à nos groupies féminines qui ont l'habitude de venir nous voir à travers la vitre du studio que nous ne sommes pas en direct ce soir.
Non, oui. Nous ne sommes pas, Amanda. Si non. Vous descendez, là, le studio est fermé normalement. D'ailleurs, on ne sait même pas quel jour on est.
Moi, personnellement.
Ni quelle heure.
Non, pas du tout.
Moi, personnellement, je suis en Inde, là, ce soir, en ce moment.
Luc est en Inde.
Voilà
moi,
pourquoi
je
nous ne sommes pas en direct. Alors, c'est bien l'Inde, Luc.
Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool.
Et toi, ouais. Ludo, t'es pas à la maternité?
C'est possible, je ne sais pas.
Alors, c'est un garçon.
C'est un garçon, par contre, je sais.
Un scoop. Wow.
À moins d'avoir des surprises. Alors, il faut aussi préciser qu'on n'entendra pas la chanson phare des Who, My Generation.
Et oui, on l'a entendu la dernière fois.
Voilà,
dans la dernière émission sur Noir Désir, voilà, pour annoncer les Who, on avait mis My Generation, mais on va en parler quand même.
Formidable émission de Noir Désir. On
formidable,
a été très
c'était
bon.
Excellent. C'était une des meilleures, je pense.
Le mardi 26 février, c'était.
Voilà, c'était 20h. C'était l'horaire c'était était respecté à l'époque.
Là, on était là, ouais.
Ou pas.
Et My Generation, quand même, on va en venir justement là. Donc, c'est le premier album des Who. Ils sont un peu à la traîne, entre guillemets. On l'a vu, hein, ils commencent en 64 officiellement. Les Beatles sont déjà au sommet. Même les Stones commencent à sortir des enregistrements et tout. Donc, il y a du retard à rattraper. Il y a les Kings qui sont passés avant. Et le but, justement, c'est de prendre le producteur des Kings, Shel Talmy, et lui faire enregistrer tout de suite quelque chose d'un peu violent dans l'esprit des Kings de l'époque. Ce qui explique le single I Can't Explain, mais aussi tout l'album où il y a plusieurs hymnes dedans, dont le fameux My Generation. Alors, la légende veut que le bassiste John Entwistle ait cassé 3 basses juste pour enregistrer ce morceau, parce qu'en fait, il lui fallait des cordes particulièrement souples, des cordes spéciales, donc il allait au magasin en acheter pour faire ça. Il fait des solos de basse quand même dedans, des doulouloulouloulou. Et et le problème c'est que il est pété, il allait en rechercher, hop, il est répété et ensuite et il a fallu 3 basses pour arriver à enregistrer. Donc ce morceau où la batterie se déchaîne complètement pour l'époque, c'est quand même très violent. En 65, il va y avoir Satisfaction des Rolling Stones, mais voilà, c'est un son qui est puissant. Et puis il y a le bégaiement de Roger Daltrey, le My Generation qui est vraiment voilà, et les paroles de Pete Townshend qui, pour le coup, s'adresse à la jeunesse. Alors, il faut savoir qu'on est en 65, là, maintenant. Ils ont la plupart 20 ans. Même Kiss Moon est plus jeune que ça. Il est né en 46. Et ils veulent parler vraiment à toute une génération. Il y a les célèbres paroles dedans. Je préfère mourir plutôt que d'être vieux. Avant d'être vieux, bon, ça ne sera pas respecté. On le verra par la suite, vu qu'il est encore en vie. Hein.
Pas pour tous.
Mais voilà, ils ont continué d'enregistrer. Mais il y a cet esprit frondeur, vraiment, c'est la révolte. À l'époque, les Rolling Stones ne sont pas révoltés à ce point. C'est des jeunes qui font du rhythm and blues un peu sauvage, mais voilà. Eux, c'est l'esprit de révolte et ils parlent aux kids, quoi.
Il faut savoir aussi quelque chose qui va un peu rythmer la vie des Who durant toute leur carrière, c'est qu'ils se supportent très très mal. C'est pas des potes qui font un groupe, on est potes et tout. Il y a vraiment de très très grosses tensions à l'intérieur du groupe. Ils sont pas potes, ils font en dehors de ce qu'ils font avec le groupe, ils ne font pas grand-chose ensemble.
Ils se tapent sur la gueule régulièrement. Roger Daltrey, qui est une ancienne petite frappe du quartier de Shepherd's Bush, à Londres, il a régulièrement cassé la gueule à Pete Townshend. Donc voilà, il s'est fait remonter les bretelles à cause de ça aussi. Il y a des concerts annulés parce que le nez cassé, c'est compliqué de jouer. Enfin, ce genre de choses.
Kiss Moon supportait très mal les compos de, enfin, le jeu de Daltrey aussi. Il avait beaucoup de mal avec ça. Et toute leur vie, ils disent qu'ils sont supportés et que finalement la musique a aidé à faire en sorte que ça tienne. Mais mis à part Entwistle qui est un peu le placide de la bande. Ce qui l'empêche pas de virer à moitié cocaïnomane et un peu mystique. Mais sinon, les trois autres ont extrêmement de difficultés à vivre ensemble hors la musique, et même déjà avec la musique, c'est un peu compliqué pour eux.
Et ce qui est intéressant justement, c'est que ça se retrouve sur scène, ça, parce qu'à cette époque, tout est déjà en place. Le reste de la carrière des Who sur scène, ça ressemblera vraiment à ça. Il y a juste les coupes de cheveux et les vêtements qui vont changer. Mais en gros, c'est Pete Townshend qui fait des grands moulinets. Ça s'appelle le windmill, mouvement. Enfin, le truc, il lève le bras, il tourne. Il fait des effets extraordinaires comme ça. Il y a Roger Daltrey qui jette son micro à chaque fois et qui le récupère et qui fait des déhanchés un peu lascifs à la Robert Plant qui n'arrivera que quelques années plus tard. Il y a évidemment Kiss Moon qui casse sa batterie, enfin qui la fracasse tous les soirs, pas forcément d'ailleurs, j'allais dire volontairement pour la détruire, mais il tape tellement fort sur les fûts que de toute façon il brise plusieurs baguettes par soir.
Voir des batteries.
Et les fûts, voilà. Et John Entwistle dans son coin qui reste raide comme la justice, mais vraiment raide, et qui joue, qui fait des solos ultra rapides de basse comme on n'en voit jamais à l'époque. Il est aujourd'hui encore considéré comme un des meilleurs bassistes de tous les temps en rock. Et des solos ultra rapides, mais sans bouger.
Thunderfinger, il était voilà. Surnommé.
Stoïque, boum, 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 boum. Voilà, tout. Et ça restera, c'est déjà présent en 64-65, et tout le reste des concerts des Who, ça sera la même image. Alors que musicalement, comme on va le voir, ça a beaucoup évolué.
Daltrey sera viré du groupe d'ailleurs à un moment parce que il en avait marre. Déjà, il se mettait sur la gueule, et puis il en avait marre d'aller voir se droguer. Il a balancé les enfêtes de Kiss Moon dans les chiottes d'un hôtel un soir de concert. Et il reviendra finalement en disant bon, c'est bon, j'arrête. J'arrête de jeter la drogue et de me battre avec vous.
C'est peut-être pour ça que Kiss Moon y cassait ses fûts. S'il était sous en fait,
il y avait d'autres problèmes. On le verra, l'alcool qui va même devenir un gros problème au sein du groupe.
L'alcool qui est une drogue, on le rappelle à nos auditeurs.
Tout à fait.
Ah
oui, oui, à consommer avec modération, comme toutes les drogues.
Tant pour moi.
Exactement.
Et on va peut-être écouter un second extrait tout de suite, donc de l'album My Generation, The Kids Are Alright, qui est un autre hymne un petit peu adressé à la jeunesse de l'époque, la jeunesse révoltée. Voilà. Et cet album My Generation qui a été un grand succès, qui marque vraiment le départ des Who dans la stratosphère. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. Sometimes I feel I gotta get away.
Voilà, c'était donc The Kids Are Alright. Les enfants vont bien.
Oui, tout à fait.
C'est à peu près
ça. Les gosses sont OK.
Les gosses sont OK.
Un morceau un peu péchu, mais oui, c'est, voilà, pas, ouais, c'est pas le pire.
C'est pour dire un peu que les jeunes ont raison, quoi.
On l'a pas dit, mais pendant cette période, c'est un peu la période aussi qui veut ça, ces années 60-70. Les Who sortent beaucoup de singles, surtout plus que véritablement des albums. Ils vont aussi participer aux deux festivals les plus emblématiques de la période, à savoir, on l'a vu quand on avait parlé de, quand on a fait l'émission sur Jimi Hendrix.
Les trois festivals.
Les trois. Monterrey,
Arras,
Woodstock.
Et l'île de Wight.
Ouais. White is White, hein, comme on dit. Donc, on se souvient que la première guitare brûlée par Jimi Hendrix, ça venait après cette petite histoire qui voulait qu'ils avaient tiré à pile ou face, savoir lequel des deux, entre les Who et Hendrix, passerait le premier. Et que Pete Townshend avait tout pété en disant genre à Jimmy, vas-y Jimmy, fais mieux maintenant. Voilà. Et puis.
Ça tombe bien, j'ai un Zippo et de l'essence pour Zippo, je vais brûler ma guitare. Voilà.
Sous les yeux de Ravi Shankar, il se disait, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Et je dis ça parce que je l'ai vu en Inde, même s'il est mort.
Bah oui. Tu étais en train de le voir, t'es avec lui actuellement.
Je suis avec Ravi Shankar, enfin, du moins son esprit, parce que le pauvre, il est un peu cramé.
Peut-être et... sa fille, hein.
Ah, ça
serait pas mal.
Eh oui. Ses filles.
La belle. Ses filles.
Ouais, ouais. Et les deux. Hein.
Nora Jones
et Shankar.
Et l'autre est Anushka.
Anushka.
Très jolie Anushka. Exactement. Shankar.
Bravo.
Et puis, il y a l'épisode Woodstock aussi. Où on se souvient de ce passage éclair d'Abby Hoffman, l'activiste pacifiste américain qui a été monté sur scène. Pendant le set des Who et qui avait été expulsé manu militari.
Ouais, pourquoi vous jouez cette merde pendant que John Sinclair est en prison.
Voilà,
machin.
C'était ça.
Et il s'est fait pris un coup de guitare dans la gueule. Ça a calmé tout le monde.
Oui, non, mais bon, voilà,
ils ont enchaîné et puis voilà.
On va pas. Hein.
Ouais, il y avait des groupes auxquels il aurait pu monter sur scène et avoir moins de problèmes.
Ouais, c'était plus risqué avec les Who.
Ouais, avec les Who, il est mal tombé.
Le public a pas pris parti pour lui trop non plus dans l'histoire. A priori, ils étaient shootés déjà. Ils comprenaient pas les Who, ça leur rentrait dans la gueule comme ça, c'est compliqué.
Voilà, il a quand même pris Pete Townshend dans la gueule. Il était gaillard, hein, Pete Townshend.
Le chanteur qui chantait Freedom s'appelle comment déjà?
C'était Richie Evans.
Ouais, voilà, il aurait pu monter sur Richie Evans par
exemple. Oui, puis c'était une guitare sèche, ça faisait moins mal. Mais
bon. Si, était-il en état de se rendre compte à quel moment sur qui, sur la, qui était sur la scène pendant qu'il montait dessus?
On va peut-être revenir dans le passé quand même.
On va revenir dans le passé.
On reviendra sur Woodstock ou pas?
Oh non, pas forcément, non. Ouais.
Parce que les Who, ils ont battu des records de décibels lors de Woodstock, il me semble.
Ouais, et c'était pas à Woodstock, ils ont été enregistrés au Guinness des records, c'était plus tard, c'était dans les années 70, où ils sont vraiment restés pendant 10 ans détenteurs du record, c'était 120 décibels, et c'est l'équivalent d'un avion au décollage à je sais plus combien de mètres, quand on est à 300 mètres. Ah, c'est au-delà du seuil de tolérance de l'oreille. Quoi.
Ils ont été battus par qui?
Je sais plus, mais c'était dans les années 80, donc faut voir.
Les Bee Gees, je crois.
Ouais.
Peut-être. Mylène Farmer, peut-être.
Peut-être. Mais on va revenir à A Quick One Way Is Away.
Qui est un petit peu les prémices de ce que vont réaliser les Who, la direction musicale que prendront les Who un peu plus tard. C'est la première tentative d'opéra rock qui va être imaginé par
avant les Kings
par Townsend et leur
En fait ça arrive même avant les Pretty Things qui sont connus pour avoir fait le premier opéra rock SF Sorrow. Et là il voilà lui mais en fait c'est pas vraiment ce qui fait que c'est un opéra rock, c'est que il y a une suite musicale à la fin.
C'est qu'il y a une suite musicale incomplet. Voilà, c'est l'album est construit de manière à ce que tous les morceaux qui se les uns à la suite des autres forment une histoire quelque part. Voilà, c'est d'où ce concept d'opéra rock. Après, tu peux prendre chaque morceau indépendamment qui font de très très bons morceaux. Mais le concept, d'ailleurs, McCartney dira qu'il s'en est un petit peu inspiré quand les Beatles ont écrit Sgt Pepper. Voilà, qui est leur entre guillemets opéra rock aussi qui va sortir.
Rappelle-moi l'année de cette
là on est en 66. 66, ouais. C'est A Quick One While He's Away, ça veut dire en gros un petit coup quand il est pas là.
Ok. Ouais. 66, c'est quoi? C'est Rubber Soul,
c'est Revolver.
C'est Revolver.
Ouais, Revolver. Ah ouais, okay. Voilà. Et par ailleurs, l'album, il marche pas de manière extraordinaire. Ça reste un groupe à singles.
Ouais, ça, voilà.
Voilà. Il continue de sortir des singles très percutants qui ressemblent pas forcément au son de l'album. On va d'ailleurs peut-être en écouter un. Substitute. Voilà, qui a un autre hymne à la jeunesse. Voilà, qui dit le mal-être adolescent. Je suis, en gros, c'est, je suis un peu. Voilà, je suis pas moi dans mon corps. Je suis un autre. Je suis qu'un remplaçant, etc.
Voilà, un bon morceau rock des Who, Substitute.
Et oui, et ce qui nous amène à l'album suivant, The Who Sell Out, qui est aussi, bon, c'est pas un opéra rock, mais c'est un album concept. Jusque dans la pochette, hein, cette fois, ils ont travaillé le truc. En fait, Pete Townshend était assez intéressé par le pop art anglais, parce qu'il y avait aussi un pop art anglais, pas comme pop art américain. Donc, ils ont travaillé des pochettes sous la forme de fausses publicités. Donc, on voit chacun des membres des Who, avec un avec des gros baked beans de Haynes, l'autre
c'est
avec
Deltré, une sorte qui est dans une baignoire
remplie d'haricots
ketchup.
Voilà, il y a c'est Kiss Moon, je crois, qui a un gros déodorant à mettre sous le bras. Et c'est suivi de petites légendes sur la mode des publicités de l'époque. Voilà. Et entre les morceaux, ils ont intercalé des fausses publicités aussi. Un peu des hommages à Radio Caroline, qui était la radio pirate radio qui émettait depuis son bateau.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà.
Oui, c'est un hommage aussi. Ouais. C'est un hommage à Radio Caroline qui avait été une des premières radios pirates
sur un bateau.
Ouais, qui passe beaucoup leur morceau.
Tiré du film.
Voilà.
Le film
Good Morning England.
Good Morning England.
Ouais, c'est ça. D'accord.
Voilà. The Boat That Rock England en VO.
Est-ce que, comme les Kings à leur époque, ils ont eu du mal à percer outre-Atlantique ?
Alors oui, il faut savoir que leurs albums ne sortent pas encore aux États-Unis à cette époque-là. Il y a les singles qui sortent, mais ils ne sont pas forcément bien distribués. Et on le verra, en fait, leur succès aux États-Unis, il commence à partir de... Voilà, là on est en 67 pour The Who Sell Out, ça arrive un petit peu après. Ben, Montrée, c'est en 67, et c'est ça vraiment qui les lance aux États-Unis. Ils ne sont pas forcément des superstars quand ils arrivent à Montrée.
Ouais, leur premier single... Qui fait de l'effet aux États-Unis, c'est Happy Jack.
Voilà, Happy Jack qui est intercalé entre deux albums, quoi, qui figure pas dedans.
Ah, et on l'entendra pas d'ailleurs.
Eux, quand ils sortent les albums, justement, aux États-Unis, c'est toujours le même problème dans les années 60. C'est, ils rebaptisent, il y a un autre nom et il n'y a pas forcément le même track listing. Donc, par exemple, il y a un album qui s'appellera Happy Jack aux États-Unis avec le single dedans, alors qu'en Angleterre, c'est pas le cas. Mais pour revenir à The Who Sell Out, donc c'est un album qui se psychédélise un peu. C'est l'humeur du temps, hein, 67. On a des chansons qui parlent un peu de tout, toujours des problèmes adolescents. Et je résiste pas d'ailleurs au plaisir de vous lire une petite traduction.
Ah, le jingle.
Traduction, Fabien.
Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment une traduction. Je vous lis les paroles en anglais et après, je vous lis la traduction d'une note de leur chanson qui parle du même sujet et vous essayez de deviner lequel. Je vous dis juste quelques paroles en anglais de Marianne with a Shaky Hand qui est dans l'album The Who Sell Out. I dance with Linda, I dance with Jean, I dance with Cindy, then I suddenly see Marianne with a Shaky
Hand.
Je
danse avec Lisa.
What they've done to a man, those shaky hands. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake her shaky hands. Alors vous devinez de quoi ça parle ou toujours pas?
De main qui secoue.
Et maintenant, on va parler de Pictures of Lily, qui est une autre chanson des Who, un single juste après. J'avais l'habitude de me réveiller le matin, j'avais l'habitude de me sentir si mal. J'étais malade de faire des nuits blanches. Je suis allé et j'ai dit à mon père, il a dit « Fiston, voici maintenant un petit quelque chose » et je les ai collés sur mon mur. Et maintenant, mes nuits ne sont plus tout à fait solitaires. En fait, je me sens plus mal du tout. Je me sens plus mal du tout. Les photos de Lily ont rendu ma vie si belle. Les photos de Lily m'ont aidé à dormir la nuit. Les photos de Lily ont résolu mes problèmes d'enfance. Les photos de Lily m'ont aidé à me sentir bien. Alors, de quoi ça parle, ces deux chansons ?
C'est une chanson contre le racisme. Elle était jolie, Lily.
Pas tout à fait. Voilà.
Ça, c'est Pierre Perret. Non,
c'est Pierre Perret, ouais.
Voilà, deux chansons sur la masturbation pour dire à quel point Pete Townshend colle au problème adolescent de l'époque et pas que de l'époque. Mais bon.
En fait, c'est des ados, les ou.
Ben, c'est des ados, ouais, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est des ados qui parlent aux ados, alors que finalement, avec les Beatles qui disent love, 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 bon, c'est un peu universel, mais ça parle peut-être moins aux adolescents qu'aux adolescentes.
Les Kings n'avaient pas parlé de masturbation dans leurs chansons déjà ?
Ouais, c'était peut-être plus à mot couvert. Alors, oui, parce que là, c'est quand même. Marianne avait la main qui secoue. Bon, voilà, pour le coup, il n'y a pas de.
Il y a peu d'ambiguïté possible, finalement. Ouais.
Et on va peut-être écouter un morceau de cet album pour voir le côté psychédélique. Ça s'appelle Armenia City in the Sky. Et là, les paroles sont moins équivoques.
Close your eyes and think on this. There's no risk. If you ever want to disappear, just take off and think of this.
Ça, c'était Armenia City in the Sky, qui nous permet d'enchaîner sur le monument rock, opéra rock des Who, qui s'appelle Tommy. Tommy, c'est l'histoire de cet enfant qui est aveugle, sourd et un petit peu idiot. Qui n'a pas de chance et qui va devenir une icône en devenant roi du flipper. Voilà, c'est un concept qui va révolutionner un petit peu beaucoup de choses et notamment la carrière des Who. Avant la sortie de Tommy, juste peut-être préciser que les Who ont commencé à devenir un groupe, ce qu'on disait, un groupe qui tourne beaucoup aux États-Unis et qui est en train un petit peu de s'enfermer aussi dans une certaine routine, c'est-à-dire que c'est concert, on casse des guitares, on casse des batteries, voilà, on fait ce qu'on nous demande, paf, paf, tac, tac, pof, allez, allez. Ouais, jour d'après, qui est concert, on casse des guitares, on casse. Il y a ce côté un petit peu mécanique et commercial qui commence à les atteindre, et c'est là que donc Pete Townshend va sortir Tommy de son chapeau, cet opéra rock qui aussi va permettre aux Who financièrement de sortir la tête de l'eau, parce que casser des guitares et des batteries c'est bien, mais ça coûte cher, et les Who ont un rythme de vie aussi qui fait que financièrement c'est très compliqué pour eux.
Ils cassent des hôtels aussi. En fait, c'est les premiers rockstars à officiellement casser des chambres d'hôtel, le fameux mythe des chambres d'hôtel.
Je pense qu'il y a eu Johnny Cash avant, mais bon.
Oui, mais voilà, eux, c'était systématique. Ils ont par exemple plongé une Cadillac, je crois, dans une piscine, comme ça, pour le fun, dans la piscine d'un hôtel. Hop, on voit ce que ça fait, on la met dedans. Ah, ben ça mouille.
Donc, c'est sympa.
Et puis, Kiss Moon a été interdit à vie de la chaîne Holiday Inn partout dans le monde à la suite de ses problèmes d'hôtel.
D'hôtel, oui, problèmes d'hôtel. Apparemment,
Il ne sera pas mort noyé dans une piscine comme ça.
Non,
mais
c'est
bon.
Sûr. Mais il trouvera un autre moyen, hein, je te rassure. Ils ont aussi des grosses dépenses vestimentaires, parce que c'est fini les mods. Ça y est, Roger Deltré peut laisser libre cours à sa chevelure frisée.
Oh oui,
oh oui, Roger,
la crinière.
Montre-nous ta crinière.
Ils avaient des blousons à franges.
Ouais, voilà. Ils avaient des blousons à franges. Ils avaient des trucs assez improbables.
Du mélange de cuir, de soie, de
trucs un peu étranges qui font que là aussi, il faut
quand même... Souvent torse nu aussi.
Oui, souvent torse nu, à moitié à Walp, enfin bref.
D'ailleurs, Johnny Hallyday s'en est rendu compte 20 ans après et a repris leur fringue.
Oui, voilà.
C'est dommage, 20 ans après, finalement.
Et Led Zepp, peu de temps après, parce que Led Zepp, il commence en 69, et on se rend compte que Robert Plant, c'est vraiment comme Roger Daltrey, c'est même fringue, même attitude sur scène.
Il y avait une rivalité entre Led Zepp et The Who, pas où il se...
Un petit peu, après, ils ne jouaient pas sur le même tableau, forcément, parce que les Led Zepp, ils commencent en 69, donc c'est surtout les années 70, ils enchaînent un album par an, quasiment, au début des années 70. Et The Who, comme on va le voir après, finalement, après Tommy, ils sortent un grand album et puis après, ouais, ça s'enfonce progressivement.
Ils s'ignoraient, en fait.
Ouais, après, les Who, c'est un peu le syndrome Kings, quoi. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a duré, mais qui a perdu de sa superbe au fur et à mesure. Mais avant ça, il y a eu Tommy. Tommy, c'est aussi une révolution parce que effectivement, ils sortent de ce créneau et de ce carcan. De ce carcan Mods, ils prennent un risque, hein, c'est un gros risque de se lancer dans cette aventure-là, parce qu'effectivement, du coup, là, pour le coup, on est sur vraiment un opéra, c'est-à-dire que chaque morceau raconte chronologiquement l'histoire de ce gamin qui va devenir le Pinball Wizard qu'on entendra tout à l'heure. C'est vraiment, et puis musicalement aussi, ils commencent à aller sur des chemins un peu, même s'ils le faisaient déjà, parce que Townsend a toujours voulu expérimenter des choses à tout point de vue, d'ailleurs, pas que musicalement. Donc, ils vont commencer à partir un peu. C'est un peu les prémices du rock progressif, du glam.
Un peu ampoulé, pompier, parfois. Voilà, ouais. C'est le reproche que leur font les critiques à l'époque. Il y a un bon accueil critique, globalement. Mais c'est que ça commence à être du rock un peu épais, quoi. Pas bourrin dans le sens hard rock du terme, mais il y a trop de violon, trop de machin, trop de concepts, trop de...
Sachant aussi qu'on a aussi surnommé les Who, les Godfather of Punk, c'est-à-dire les parrains du punk. Donc, tu vois,
pas vraiment pour Tommy.
Ouais, pas vraiment pour Tommy, hein, c'était un peu plus tard. Mais c'est dire un peu la courbe que peuvent suivre musicalement les Who. Qui ont un peu goûté à pas mal de trucs.
En fait, ils ont fait pas mal de choses différentes et il y a toujours eu plus ou moins un décalage. Hein. Voilà, ils ont été mode le temps d'un album. Après, ils ont été psychédéliques. Après, ils ont fait un album pop art. Et là, ils en sont à l'opéra rock. Et 4 albums totalement différents et pourtant un public qui est parfois le même. Donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver.
Et aussi, il faut parler du génie créatif de Townsend qui va devenir une espèce d'icône. De demi-urge à qui on dira tout le temps mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir aller chercher maintenant.
Et les autres ne savaient pas trop d'ailleurs dans quelle direction il allait et par exemple Tommy, les autres membres du groupe disaient on comprend même pas l'histoire, enfin je veux dire c'est bien quand il la raconte parce que nous on n'a pas suivi. On a joué, on n'a pas suivi
ce qui va aussi raviver parfois certaines tensions aussi dans les membres du groupe parce qu'ils disaient mais qu'est-ce que tu fais Pete, ça y est t'as pété un plomb complet quoi.
Ben, on va écouter d'ailleurs le pétage de plomb en musique avec Pinball Wizard qui est un de leurs morceaux les plus connus,
le magicien du flipper.
Pinball wizard's got such a supporting little fingers never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Voilà donc pour ce morceau qui s'appelle Pinball Wizard. Concernant les traductions, je tiens à dire à nos auditeurs que Pete Townsend veut dire Pete 100. Townsend, 100.
Non, oh. Non, non, ça s'écrit pas pareil. On peut pas laisser passer ça.
Ce serait plutôt Villefin.
Voilà.
Villefin.
La fin de la ville.
La fin de la ville. Oui, exact.
Eh oui.
Eh oui. Très bien.
Mais il y a un H au milieu.
Et alors après Tommy, qu'est-ce qui se passe? Après Tommy, on se dit, ben, l'opéra rock c'est fait, on va passer à autre chose. Sauf que Pete Townsend, il se laisse un peu emporter par sa folie créatrice et il veut aller plus loin dans l'opéra rock. Il veut lancer un double album concept de fou avec de la science-fiction, machin. C'est un projet qui s'appelle Lifehouse. Il y a récemment, il y a les sessions de ces enregistrements-là qui sont sorties sur 6 CD, je crois, avec des démos et autres. Mais ça verra jamais le jour. Et du coup, enfin, les autres lui disent un peu, reviens à la raison, mon gars, on fait quand même du rock, on a un public, blabla.
C'est-à-dire qu'il la perd un peu la raison aussi. Voilà. Townsend, c'est un projet qui l'obsède complètement. Et,
ah, il est à fond.
Il est à fond. En
plus de la rogue.
Et de l'alcool, parce qu'il a viré alcoolique complet. Et puis, il s'en sort pas. Il veut faire ce truc, ça le hante.
C'est vraiment quelque chose qui va très, très loin et les autres le supportent plus trop. Et donc, il le ramène à la raison, lui disant « Fais quelque chose de plus resserré, là, il faut qu'on sorte un disque. » Et c'est vrai qu'à l'époque, on se rappelle toujours l'échelle Beatles en 7 ans, 13 ou 14 albums. Et là, depuis 69 et Tommy, ils ont rien sorti. Donc, le temps commence à presser. Et il utilise quand même, du coup, les chansons prévues pour Lifehouse, légèrement épurées, mais très légèrement. Mmh. Pour l'album Who's Next.
Il faut savoir aussi qu'entre-temps, il y avait un projet de film avec Lifehouse.
Oui, voilà, c'était un concept global.
Voilà, c'était un concept global. Et ce qui fait que Lifehouse va sortir, enfin, les morceaux vont sortir dans un album, c'est que le film va capoter finalement. Oui. Et qu'on se dit, les Who's disent, quand même, il y a tout ce matériel-là.
Il y a la moitié en moins, bon.
Voilà, il y a peut-être se servir de tout ce qui a été fait justement. Et c'est ainsi que sort cet album Who's Next.
Qui est considéré par les critiques comme leur meilleur album, vraiment.
Exactement.
Là, c'est du rock, on retourne un peu au rock pur et dur. Alors, pur et dur, avec une petite nuance. Par exemple, on l'a entendu dans le générique de notre émission aujourd'hui, il y avait le morceau Baba O'Reilly. On va en parler pour deux choses différentes. La première, c'est que, vous avez entendu, il y a du synthétiseur au début. Donc, c'est une époque où on découvre les synthétiseurs et eux, ils veulent utiliser vraiment les nouveaux instruments et toute leur capacité. Et l'électronique, ça les intéresse. Et ils se sont inspirés pour ça de Teddy Riley, qui est un compositeur de musique contemporaine, qui faisait des boucles comme ça, de musicales. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'intro au synthé qui tourne.
C'est super bien la boucle au synthé.
Ouais. Puis après, ils arrivent dessus, évidemment, et ils continuent tout fracasser en mode rock. Mais bon, voilà, les critiques estimeront qu'il n'a jamais aussi bien chanté, Roger Daltrey, que l'inventivité est au rendez-vous au niveau musical. Les morceaux sont grandioses, que ce soit Baba O'Reilly, dont on a parlé, ou Behind Blue Eyes, ou Won't Get Fooled Again.
Exactement. Bien de ce qu'on va écouter.
Et oui, qu'on va écouter. Juste pour revenir sur Baba O'Reilly, toi qui es en Inde en ce moment,
oui.
C'est un hommage aussi, c'est inspiré de quelqu'un
j'ai encore oublié son
c'est
son
Mémère.
Mémère Baba. Qui est un des gourous de Pete Townsend, qui avait aussi quelques gourous et quelques personnes mystiques un peu autour de lui. Voilà, c'est un peu Baba O'Reilly, donc c'est le mélange entre... Baba et O'Reilly dont on vient de parler.
Et donc Townsend qui avait des problèmes à la fois de drogue, d'alcool, de folie et en plus maintenant qui était emporté par un gourou.
Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière les yeux bleus?
Et oui, on va écouter Behind Blue Eyes tout de suite.
No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience.
vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat. Bad man, to be the sad man behind blue eyes. Voilà, c'était beaucoup plus beaucoup plus calme que ce qu'on a pu écouter auparavant, à part un petit peu la fin, mais c'était pour prouver que les Who pouvaient aussi faire des balades.
Ils pouvaient être fins.
Et ils vont continuer à faire des choses, même si on sait à partir de là de Who's Next, ça commence à partir un peu en décrépitude.
Une fois qu'on est au sommet, on peut que redescendre,
Que redescendre. Il y a de plus en plus de tensions d'ailleurs dans les membres du groupe. Keith Moon d'ailleurs un jour a déclaré: je n'ai jamais pu blairer la façon de chanter de Roger, je déteste la moitié de ce que nous avons fait et Deltré en est le principal responsable.
Ambiance.
Hein, ça continue hein, les tiraillements.
Mais Keith Moon, il y avait de toute façon d'autres problèmes. Il y a un soir sur scène dans les années 70, avec son arrogance habituelle, il y a quelqu'un qui vient lui proposer des cachets qui croit être de l'Exta ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il lui dit: tiens, je te donne un demi cachet du Nouvelle Rock, tu vas voir, c'est génial, tu vas t'éclater. Et lui, tu sais qui je suis Keith Moon, moi, je prends le cachet en entier, m'emmerde pas. Il l'a pris, c'était un somnifère pour cheval, donc il n'a pas pu monter sur scène, il a été remplacé par un spectateur qui est venu jouer à sa place. Et il s'est réveillé le surlendemain, quelque chose comme ça, donc bon,
ouais,
ça dit
ouais,
un peu
bien
aussi
dormi,
l'état d'esprit.
Voilà, et d'ailleurs, il en mourra puisqu'il décède en 78, overdose médicamenteuse.
Voilà, des médicaments pour soigner son alcoolisme, c'est toujours le problème, quoi. Un mal pour soigner un autre mal.
Ouais, c'est un mal pour un bien, ou là, c'était un mal pour un mal, finalement. Donc ensuite, les Who vont tenter quelques trucs. Ils vont tenter un autre opéra rock qui s'appelle Quadrophenia, un double album qui raconte l'histoire de Mods.
Ils reviennent aux Mods.
Qui souffrent d'un quadruplement de personnalité.
Ça existe.
Oui. Voilà. Et donc chacune des personnalités de Jimmy, donc ce jeune Mods correspond à un membre du groupe.
Et là aussi, il y a un projet de film en parallèle qui sortira plus tard.
Ouais.
Mais ils se casseront moins le cul et ils feront juste la bande originale sans forcément... voilà, c'est, de toute façon, l'album est déjà enregistré, hop, on le collera dessus. Il y aura Sting dedans, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et Phil Daniels, le gars qui chante dans Park Life de Blur, par exemple. C'est aussi un hommage.
Intéressant, ça.
Celui qui fait un peu du parler, là, sur la chanson.
Il y aura un autre film aussi, donc sur Tommy, cette fois, oui. L'opéra rock. Il ne va pas être non plus... énorme succès, même s'il y a beaucoup de monde. Il y a...
Ouais, c'est culte, quoi.
Ouais,
mais bon, c'est vrai.
Culte, mais...
C'est un peu loin, quoi. Aujourd'hui, à regarder, c'est ouais. Difficile.
Il y a notamment
Elton
cette...
John, Tina Turner...
Clapton.
Clapton, Eric Clapton.
Nicholson, aussi.
Ouais. Jack.
Ouais. Et puis, il y a notamment cette scène, là, dans les haricots, emportée par une mare de haricots.
Non, et puis là, en plus, Pete Townshend, il a un peu étoffé le concept de son album de l'époque, et Ken Russell, le réalisateur... a construit un scénario là-dessus, mais c'est ce que diront les autres membres. Donc, ils n'avaient rien compris à l'époque de la sortie de Tommy. On a dû attendre le film pour à peu près comprendre de quoi il en retournait. Mais même avec le film, bon, bah voilà quoi. Si vous voulez, je vous lis le résumé un petit peu par le journaliste Bruno Blum. Luc nous l'a fait tout à l'heure un peu plus court, mais voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme devenu sourd, muet et aveugle à la suite d'un traumatisme occasionné par l'insistance de ses parents à lui faire oublier le meurtre de l'amant de sa mère dont il a été le témoin. Apparemment incurable, il parvient néanmoins à voir son image se refléter dans le miroir. Il atteint la célébrité en devenant imbattable au flipper, grâce à son sens du toucher. Sa mère brise alors le miroir. Guéri, il se prend pour un messie et fait des adeptes. Il prêche dans une communauté installée dans un camp de vacances et offre des flippers à ses fidèles, qui le rejettent finalement. Tommy est à nouveau isolé, mais cette fois, le magicien du flipper est libre. Donc, quand on lit le résumé, franchement, voilà. On se dit « Mon Dieu !»
Oui, il y a un problème.
Le monsieur, il est un peu abîmé. Les Who vont aussi changer de producteur parce que ça se passe très mal entre Townsend, notamment Townsend et leurs deux producteurs Lambert et Chris Stamp. Ils vont récupérer leur assistant Bill Kerr-Bichley qui va devenir le producteur des Who pour ce qui reste de la carrière des Who, qui est finalement beaucoup moins, alors qui est en masse plutôt importante parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont
albums
sorties.
Des singles, mais...
voilà, des albums, des singles.
Des singles.
The Who by Numbers, par exemple, qui est un album vachement plus sombre et beaucoup plus personnel que ce qui a été fait, là, notamment au niveau de Townsend, qui reste quand même le génie créatif du groupe.
Mais ce qui compte à l'époque, c'est surtout la scène quand même.
Voilà. Après, ça devient un groupe de vraiment.
C'est vraiment
groupe de
un
scène.
Groupe, le spectacle. On vient au spectacle.
Un peu comme on a vu avec les Kings, qui sont devenus un groupe de stade après avoir été.
D'ailleurs, on n'a pas entendu de morceau live encore.
Et ben là, on va écouter un enregistré à Leeds, à l'université de Leeds, parce qu'ils faisaient des concerts dans les universités. Ouais. Donc, on est en 70. Et c'est un des meilleurs lives de l'histoire, avec une pochette imitant les pirates de l'époque, c'est-à-dire il y a juste un tampon, The Who, Live at Leeds. Et on écoute Amazing Journey Sparks, qui est un medley de deux morceaux, un instrumental et une chanson qui sont dans Tommy.
Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Yeah.
Thank you very much. With that, I carry on with a rock and roll song called Teletown Blues.
Et voilà pour ce live, ça y est, on en a entendu un. Et peut-être on arrive vers la fin de cette émission.
On a vers la fin des Who.
Ouais, la fin des Who, ouais.
La fin des Who qui vont fortement souffrir de la disparition de Kiss Moon en 78.
Alors, on l'a dit tout à l'heure.
Overdose médicamenteuse.
Voilà, des médicaments pour soigner l'alcoolisme.
Bon, voilà,
l'accès toujours, donc il en a pris tôt. Il faut savoir qu'il était installé aux États-Unis à l'époque à Los Angeles, où il faisait des virées un peu à la con avec Harry Nilsson, Ringo Starr et autres. Ringo Starr est d'ailleurs le fils de Ringo Starr, Zach Starkey, et le neveu de Kiss Moon.
C'est dommage.
Voilà, entre batteurs. Mais bon, il avait grossi, il n'arrivait plus à suivre en fait, il n'arrivait plus trop à jouer. Donc, au moment où il est mort, il a été remplacé quasiment dès le lendemain et ils ont continué à tourner. Quoi, voilà.
Ouais, par contre, il était carrément dingue. Hein. C'est ce que qui ressort tout, c'est qu'il était totalement fou.
Ouais. Un vrai problème.
Ouais. Et pour dire à quel point les Who s'ignoraient un petit peu, c'est quand John Entwistle est mort, donc en 2002, même si c'était le plus sage et le plus virtuose de tous,
le bassiste,
ouais. Il est quand même mieux mort à Las Vegas dans un hôtel entouré de coqs et de putes.
Voilà. Le problème, c'est justement ça, c'est qu'apparemment il avait arrêté la drogue pendant longtemps, parce que pendant 25 ans, les Who ont plus enregistré tellement. Enfin, ils ont fait des albums solo tous dès le début des années 70, chacun sortait des albums solo. Mais entre, en gros, le début des années 80 et les années 2000, il se passe rien, quoi. Il y a quelques concerts pour le live-aid de 85, des trucs comme ça, quoi. Mais, et là, donc lui, il ne s'est plus drogué pendant des années. Il s'est intéressé qu'à la musique, à la peinture, à n'importe quoi. Et il reprend de la cocaïne. Mais là, c'est trop pour son cœur. Il est âgé et donc il clams.
Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils ont appris qu'il était franc-maçon. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant des années avec un gars qui l'ont côtoyé toujours. Ils ne savaient pas du tout qu'il était
franc-maçon. Tout comme on a appris après que Pete Townshend était un peu homosexuel aussi et qu'il avait eu des expériences déjà avec ça. Mais on va reparler de Pete Townshend pour un autre problème, parce qu'à la fin de sa carrière, finalement, il est connu surtout pour être arrêté pour pédophilie.
Voilà.
Alors, il faut préciser les choses.
Ouais.
Pédophilie, c'est parce qu'il a collecté des images pédophiles retrouvées sur Internet, sur son ordinateur. Il expliquera les choses.
Ouais, alors lui, il se défend en disant que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé sa carte bleue pour télécharger des images pédophiles, pédopornographiques. Et lui explique que c'était un test pour démontrer que les banques sont complices indirectement des pédophiles.
Parce que lui-même a été victime de pédophilie dans sa jeunesse et qu'il le dira plus tard dans son autobiographie qui vient de sortir, là, qui est sortie pas longtemps. Il le dit à demi-mot dedans. En gros, il s'est intéressé à ce sujet-là parce que lui-même avait été traumatisé par un oncle ou je sais pas quoi qui le faisait sauter sur ses genoux.
Sa grand-mère.
Et bon, donc il aurait chargé les images pour montrer que finalement c'était facile à faire, etc. Résultat, la police est venue.
Ouais. Bon, finalement, il a pas été condamné.
Non, ça va.
C'est un peu gros.
Ça a un peu terni l'image à la fin de sa vie, quoi. Enfin, à la fin de sa vie, il est pas mort. Mais bon, il est un peu trop enregistré là.
Ouais, bon, après, faut savoir aussi que les Who, je crois que c'est 82, hein, leur dernière tournée, la dernière tournée des Who avant qu'ils se séparent quasi définitivement.
Ouais, et après, ils se reforment avec le fils de Ringo à la batterie, justement, mais qui accepte pas d'être membre permanent du groupe. Il lui propose, il fait juste quelques piges, et puis voilà, après, ils tournent, ils sont plus que deux, de toute façon. Donc, ils font le show de temps en temps, ils prennent des requins de scène, entre guillemets. Et puis voilà, et puis de temps en temps, ils enregistrent un truc aussi, de temps en temps, mais bon, ça n'a plus trop d'intérêt.
Ouais. Qu'est-ce que ça vaut
Voilà, aujourd'hui, il y a eu des critiques pas trop mal de leur album de, je sais plus quand c'était, en 2008, quelque chose comme ça, leur dernier. Mais bon, enfin, c'est pas les Who de l'époque. Même dans les années 70, là, on va écouter un morceau, ils arrivaient à faire des grandes choses, même au milieu d'albums pas top.
Endless Wire en 2006.
Ouais, Endless Wire qui a eu de bonnes critiques. On va écouter Who. Ouais.
Après, en même temps, est-ce qu'un groupe dont on se sert de trois chansons pour être le générique de trois séries différentes peut vraiment être considéré?
Eh bien, justement, on va écouter un de ces génériques, c'est Who Are You, dans l'album Who Are You, est utilisé pour les experts, tout court,
les experts,
ni Miami, ni Las Vegas.
Ouais, les
paf,
experts.
Paf, paf. Bon. We'll be right back.
Voilà pour ce morceau. On va peut-être terminer cette émission par les conseils. Fab, pour commencer.
Oui, alors, selon moi, on peut tout à fait, comme c'est un groupe à single quand même au début, commencer par une compilation. Il y a des bonnes compilations sur le marché, un truc avec quand même une vingtaine de titres pour faire
un
tout
bon
le panel.
Best of.
Ouais. Et en fonction... Il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans,
tout à fait. Et en fonction de sa période préférée à l'écoute de ça, si on ne connaissait pas avant, et ben, si on préfère les débuts nerveux, on prend My Generation. Si on préfère l'aspect psychédélique, on peut prendre The Who Sell Out. On peut sauter Quick One While He's Away, mm-hmm. c'est pas nécessaire. Et sinon, il y a Tommy ou Who's Next. Le reste, c'est dispensable. On peut prendre quelques chansons par-ci par-là et peut-être épauler ça par un album live, Live at Leeds.
Live at Leeds.
Voilà, pour comprendre un peu la furie sur scène. On ne se rend pas vraiment compte sur les albums parfois.
Ouais, après, il y a du matériel vidéo sur les Who. Il y a Tommy, le film. Qui peut être intéressant,
un peu de document historique,
ouais, voilà, un peu obscur, un peu étrange.
Il y a plein de superstars de l'époque.
Voilà, il y a aussi
Quadrophenia, il y a eu
Quadrophenia, le film aussi. Alors ça, là, c'est peut-être dispensable, mais oui. Bon, ça fait partie de l'histoire des Who. Et il y a aussi un documentaire Amazing Journey, The Story of the Who, qui est sorti en DVD, qui raconte un peu justement l'histoire des Who. Qui retrace un peu leur parcours, un documentaire.
Sinon, pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, qui commencent à être fans, donc je parlais tout à l'heure des sessions de Lifehouse qui sont sorties en 6 CD, je crois. Pete Townshend a sorti des albums solo dans les années 80, en fait, entièrement quasiment composés de démos de chansons des Who, donc des versions primitives de tous les tubes, Bargain, Baba O'Reilly, Won't Get Fooled Again, etc. Et c'est pas mal du tout, quoi. Donc voilà, c'est des albums solo de Pete Townshend, finalement, forcément, il les joue tout seul avec de tous les instruments chez lui, avant que ça en soit enregistré par les Who.
Voilà. Et puis sinon, il y a aussi, Fabien a dit tout à l'heure, la biographie, l'autobiographie de Pete Townshend, qui est très récente.
On a tendance à le Roger Daltrey, peut-être.
Voilà, qui raconte des trucs, des fois, dont on s'en fout un peu, mais oui. Bon, bah...
C'est le propre de toutes les autobiographies. Mais a priori, lui, il aurait écrit vraiment tout seul.
Oui,
ce qui est
c'est peut-être le problème, d'ailleurs.
Oui, c'est peut-être le problème. Après, bon,
non, mais
Keith
voilà,
Richards ou autres se sont fait beaucoup aider. Lui,
ouais,
il
ouais,
pas
lui apparemment, il a écrit tout seul. Ça permet aussi... Alors, il explique qu'effectivement, il charge un peu plus ceux qui sont morts, Keith Moon et John Entwistle, et qu'effectivement, il dédouane un peu Roger Daltrey, dont il a... se rapproche plus ou moins régulièrement. Voilà.
D'accord. Bah écoutez, merci tous les deux. On se retrouvera mi ou fin avril pour une émission de nouveau en direct.
Et
absolument.
Oui, ça sera consacré à un type qui est finalement un rapport à l'Inde. Hein,
ouais,
toujours.
C'est vrai
on sort pas,
avec l'Inde, on ne sort pas.
Mais on va se consacrer uniquement à sa carrière solo parce qu'il a un petit groupe avant. C'est un
pas
peu compliqué
quoi, ouais.
À dépatouiller.
Ouais,
ils ont fait deux, trois choses. Les bits.
Les bêtes.
Et bon, du coup, on va se consacrer uniquement à sa carrière solo. Et je crois qu'il a écrit Something, des choses comme ça.
Il a écrit quelque chose. Et je vous rassure, on n'a pas choisi de se consacrer à Ringo.
D'accord. Et on va écouter d'ailleurs Something en version démo, George Harrison seul. Bye.
Au revoir.
Something in the way. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Something in her smile she knows. But I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. You're asking me stick.
that woman of mine. And I need her all of the time. No, I'm telling you, that woman don't make me blue. Something in the way she knows. All I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.